Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de tous vous retrouver ce matin. Merci à l'Académie pour l'organisation de cet événement consacré à la VAE. Et merci à tous les participants qui sont très nombreux mobilisés ce matin. Et merci surtout à nos intervenants que nous allons présenter et qui vont animer cette séquence consacrée à la VAE. Axel Cornet, conseiller auprès de la ministre Carole Grandjean, et Olivier Gérard, chef de projet REVA, auprès de Beta.gouv. Un petit mot d'introduction avant de leur laisser la parole à tous les deux. Le 9 mai dernier, la Commission européenne a officiellement lancé l'année européenne des compétences pour, d'une part, mettre en avant les initiatives de la France en matière de formation pour favoriser la montée en compétences des citoyens européens et, d'autre part, pour accompagner les grandes transitions actuelles et à venir et faire face aux tensions de recrutement que nous vivons, y compris en France. Pour les États membres, des coordinateurs ont été nommés pour animer ce sujet et mobiliser les acteurs nationaux et mettre de la visibilité à toutes ces initiatives, dont celle du MEDEF. Il s'agit pour la France de Gilles Gâteau et de Marianne Debrunoff, si elle est présentée, je la salue évidemment. Et pour le MEDEF, ce moment est important, notamment pour lancer l'année européenne des compétences pour notre organisation, aussi pour donner de la visibilité aux initiatives que nous porterons tout au long de l'année au niveau national et au niveau régional. Je sais que vous êtes très nombreux à représenter les MEDEF régionaux, territoriaux, les adhérents en général régionaux. Parce qu'il est important pour nous de mettre en avant les outils que les entreprises pourront directement mobiliser, utiliser pour favoriser le développement des compétences des salariés au plus près des territoires et favoriser cette adéquation entre compétences et besoins du monde économique. Donc c'est important pour nous cet événement de lancement de l'année européenne des compétences. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Axel et Olivier pour cette présentation. Bien évidemment, toutes vos questions seront enregistrées et nous les poserons à l'issue de la présentation que Axel et Olivier vont nous faire. On privilégie, il me semble, les questions dans le chat pour qu'on puisse vous apporter les éléments de réponse. Cette séquence est bien évidemment enregistrée et pourra être transmise sur le site du MEDEF pour pouvoir la visionner dans vos organisations, le cas échéant. À vous.
Merci beaucoup Florence, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier sincèrement le MEDEF pour cette invitation ce matin. Il est toujours important pour nous de se mettre au contact de ceux qui vivent les dispositifs que nous administrons au quotidien et de vous donner toute la visibilité nécessaire. A fortiori lorsque sur le sujet particulier de la VAE, c'est une réforme au long cours que nous avons lancée fin 2022 et sur laquelle on reviendra ce matin. Vous remercier également pour ce lien que vous faites ce matin entre un dispositif très national finalement et l'année européenne des compétences. C'est important pour nous. Effectivement, une grande partie de l'activité du ministère que je représente s'inscrit dans la conception française de cette année européenne. La VAE a plus forte raison puisque la ministre Carole Grandjean a eu l'occasion de s'entretenir de ce sujet avec le commissaire européen et c'est un sujet qui est regarder au niveau européen et sur lequel nous serons amenés dans les mois à venir à rendre compte auprès des instances de la Commission et auprès de nos voisins européens, de sorte que le modèle français, si toutefois on réussit ce pari d'instaurer un modèle français en matière de reconnaissance des acquis de l'expérience, eh bien puisse essaimer au-delà de nos frontières. Alors, on voulait vous présenter ce matin la VAE selon un petit peu la chronologie des travaux et réflexions qui ont été portés sur ce dispositif et ce depuis plusieurs années. afin qu'on arrive un petit peu sur les dernières innovations en la matière. Je voulais vous parler peut-être en introduction du pourquoi on s'est intéressé plus particulièrement à la VAE en ce début de nouveau quinquennat. Vous le savez, la VAE, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans. Elle a été créée en 2002. Et c'est un dispositif qui a, il faut le dire, toujours souffert des lourdeurs qui lui ont été attribuées dès sa conception. Lourdeur tant du point de vue de la procédure qui était celle de la VAE pour parvenir jusqu'au passage devant le jury, que dans l'information qui était délivrée à nos concitoyens sur ce dispositif. Il y avait beaucoup de sources d'informations différentes, pas mal d'erreurs, il faut le reconnaître, sur le type de certification accessible. On concluait souvent à « la VAE, c'est pas pour moi ». Et lorsque on se lançait dans une VAE, c'était une procédure extrêmement complexe à laquelle il fallait faire face. Alors, on a sur le sujet demandé plusieurs rapports. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, d'abord, qui a fait la somme des freins constatés en matière de VAE. Et puis, nous avons également demandé, sous la précédente mandature, un rapport à un groupe d'experts sur non seulement les freins, les expliciter un peu plus précisément, mais surtout un rapport qui visait à faire des propositions concrètes d'évolution de la procédure de VAE, plus généralement de ce dispositif, vers une plus grande simplicité. Alors, peut-être revenir un peu sur les freins sur lesquels on a souhaité agir, parce que vous verrez que c'est très en lien avec l'action qui a été celle du gouvernement en matière de réforme. Le premier frein, je le disais, c'était une complexité administrative. On avait une procédure de VAE qui était marquée par son caractère très administratif, au stade de la recevabilité en particulier. Donc la première étape à passer pour un candidat à la VAE. Cette étape de recevabilité, elle nécessitait de prouver que l'on avait le niveau d'expérience et la durée d'expérience suffisante pour être éligible à ce dispositif. Alors, elle est passée de 2 ans à 1 an lors de la dernière réforme. Et ça nécessitait pour le candidat de compiler des preuves d'activité professionnelle, des preuves d'activité de formation. Très concrètement, ça prenait la forme d'un dossier de fiche de paye, d'attestation de formation, souvent à aller chercher auprès d'employeurs auprès desquels on avait travaillé il y a plus de 10 ans, souvent à aller chercher auprès d'organismes de formation qui parfois avaient tout simplement fermé. Donc, pour le candidat, c'était une première complexité, et là, une complexité qui pouvait difficilement être levé par de l'accompagnement, parce que aller chercher des fiches de paye et aller chercher des preuves de formation, eh bien ça se fait en son nom. Donc une première difficulté sur laquelle on a été informé et documenté, une deuxième difficulté qui était celle, d'ailleurs préalable au dossier de recevabilité, de la diversité des sources d'information et parfois, je le disais, des erreurs qui s'y situaient et qui tenaient pas mal de nos concitoyens hors de ce dispositif, alors même qu'ils pouvaient légitimement y prétendre. Alors là-dessus, la faute à personne, mais lorsqu'on a effectivement plusieurs institutions au niveau national comme au niveau territorial qui souhaitaient à un moment faire usage de la VAE dans leur politique d'accès aux compétences, eh bien, ça devenait malheureusement moins lisible pour le bénéficiaire final, parce que on allait chercher l'information auprès des DAVA pour ce qui relevait de l'éducation nationale, auprès des points relais conseils pour ce qui relevait de la politique de formation et d'accès aux certifications régionales, sur le site du ministère du Travail et sur le site de Centre Info pour ce qui était de l'échelon national. Tout cela créait une forme de confusion qui n'aidait pas à la promotion finalement et à l'attractivité de ce dispositif. Troisième écueil dans lequel nous tombions en matière de VAE, eh bien, c'était le manque d'homogénéité de l'accompagnement. Ce qui nous était pointé, c'est une distinction entre un accompagnement anté-recevabilité et un accompagnement post-recevabilité. L'accompagnement anté-recevabilité étant strictement optionnel, d'ailleurs la loi spécifiait avant la réforme que cet accompagnement débutait pour le bénéficiaire post-recevabilité. Donc c'est-à-dire qu'on assumait que la personne au stade qui était pourtant le plus complexe en matière de VAE, eh bien cette personne n'avait pas droit à un accompagnement digne de ce nom. Et lorsqu'il y avait droit, il était souvent différent de celui qui était mis en œuvre post-recevabilité pour accompagner la personne à la rédaction de son dossier de validation et à le préparer au passage devant le jury. Ce manque d'homogénéité dans les phases de l'accompagnement, ça crée là aussi une forme de confusion. Et puis, on le sait, pour les publics les plus fragiles, c'est l'intensité le caractère continu de l'accompagnement qui fait les garanties de la réussite. Ce point-là tenait à distance les personnes les plus éloignées de l'emploi et celles disposant d'un niveau de qualification à l'entrée dans le parcours de VAE le plus faible. Et puis enfin, on le savait également parce que ça nous a été pointé, parcours de VAE partait du principe, un principe qui pour nous semblait totalement illusoire, le principe selon lequel lorsqu'on se lançait dans un parcours, eh bien, on était censé recouvrer 100% d'un référentiel de certification. C'était là le postulat de la VAE, la validation des acquis de l'expérience supposait que lorsqu'on se lance dans le parcours, eh bien, on s'y lance parce qu'on savait que notre expérience nous avait permis de recouvrir 100% du référentiel de certification. Pour nous, c'est bien évidemment totalement illusoire, mais pour une personne qui, par exemple, en recoupait que 70% et à qui il aurait manqué, par exemple, une forme d'actualisation de sa compétence sur un geste professionnel ou tout simplement de la connaissance autour d'un bloc de compétences, eh bien, cette personne se retrouvait sans solution, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait prétendre finalement qu'à une certification partielle. Et lorsque elle prétendait à une certification partielle, qui n'est pas un échec, mais pas une réussite non plus, eh bien, les différents rapports nous ont pointé qu'il n'y avait aucune prise en charge de la décision jury sur la candidature du candidat lorsqu'elle n'était pas de pleine réussite. C'est-à-dire que la personne se retrouvait avec une partie de sa certification, mais sans orientation, sans prise en charge derrière et de conseil vers telle ou telle action de formation complémentaire qui lui permettrait de prétendre in fine, dans une logique de parcours, à l'intégralité de la certification. C'est l'ensemble de ces points bloquants qui conduisaient à ce que on ait, lors de la précédente mandature, une politique publique qui stagnait à environ 30 000 parcours. Je rappelle que l'ambition initiale autour de la VAE, lorsqu'on se plonge dans les rapports parlementaires de 2002, et puis ensuite, 10 ans plus tard, de la première réforme, c'était 150 000 parcours. On en était bien loin, de l'ambition initiale. Donc 30 000 parcours, un taux d'abandon qui approchait les 70%, alors toute étape de parcours confondue, mais plus spécifiquement à l'étape de recevabilité, avant l'étape de recevabilité. Donc on avait même des gens qui abandonnaient, je vais le dire comme c'était, dès qu'ils voyaient le dossier de recevabilité, qui se disaient bon non, enfin j'ai pas le temps et c'est pas pour moi. Un taux d'accès au diplôme dans sa totalité qui ne dépassait pas les 10%. Donc on ne pouvait pas se satisfaire de ces chiffres, évidemment, et sur la base des diverses propositions qui ont pu nous être faites dans le dernier rapport d'experts et sur proposition aussi des acteurs de la VAE, nous avons décidé d'avancer à titre expérimental en créant une expérimentation que l'on a dénommée REVA. Alors une expérimentation qui avait pour ambition d'abord de tester les propositions qui nous étaient faites en matière de parcours simplifié avec des objectifs simples, réduire le taux d'abandon à toutes les phases de la candidature, surtout simplifier l'étape de recevabilité pour la rendre moins administrative et moins pesante pour le candidat, tester une nouvelle forme d'accompagnement On y reviendra évidemment puisque c'est un peu la clé de voûte hein, de cette réforme, mais tester donc une fonction non plus de simple accompagnateur, mais d'architecte accompagnateur de parcours, et puis surtout de répondre le plus rapidement possible à un besoin important de recrutement dans le secteur de la santé et dans le secteur du sanitaire et social. C'est la raison pourquoi REVA a été pensée dans une approche très sectorielle. Alors on a eu des ambitions et Olivier reviendra, plutôt modeste début, 200 candidats, ça a plutôt bien fonctionné je crois, et aujourd'hui on est en passe d'atteindre eh bien les 5000 candidats que la deuxième phase de l'expérimentation s'est donnée, la trajectoire est bonne et les parcours expérimentaux ont été plutôt satisfaisants, et je laisse la parole à Olivier pour vous présenter un petit peu REVA d'abord et ses résultats ensuite.
Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Merci aux mesdames donc de nous accueillir. Effectivement, ce discours introductif d'Axel démontre combien en fait l'État a fonctionné pour essayer de transformer la VAE, non pas avec un texte réglementaire qui sort comme ça tout de suite, mais en mode itératif, d'où l'idée de faire porter cette réforme par une start-up d'État. Une start-up d'État, ça peut paraître un peu interrogatif, mais l'idée c'était de fonctionner sur le mode de test en ligne et de voir comment les hypothèses que nous posions étaient bien évidemment confortées ou infirmées. Et donc sur l'ensemble des étapes, nous avons construit une première phase d'investigation, de dire ben voilà, et si on enlevait ça, par quoi on le remplace et comment on va mesurer l'impact sur les usagers. En fait, l'idée, c'est de remettre l'usager au cœur du système et non pas l'écosystème autour de l'usager, mais de partir à partir de l'usager pour regarder l'impact sur son parcours et notamment sa volonté de toujours poursuivre et son investissement dans le dispositif. Et donc, comme toute start-up d'État, nous avons plusieurs étapes. La première qui est une phase d'investigation, dont je vais vous parler tout à l'heure, une phase de test et de mesure d'impact, une phase d'élargissement et une phase de transfert. Et donc, REVA s'est bâti autour de ces quatre étapes, tout en ayant un processus d'évaluation itinéré de nos parcours, puisqu'à chaque fois, entre guillemets, notre actionnaire de la start-up qui était le ministère du Travail pouvait dire on arrête ou on n'arrête pas, on n'a pas assez d'impact, ça n'a pas les effets probants que l'on pose, et donc on ferme le dispositif, ce qui est aussi une manière de transformer la politique publique en ne gâchant pas l'argent de nos concitoyens, dire on met un peu d'argent pour voir, et on voit comment ça produit des effets. Et donc, ce que disait Axel tout à l'heure, nous avons regardé l'ensemble des textes réglementaires législatifs qui étaient portés par le Code de l'éducation et le Code du travail pour voir tous les freins que ça pouvait poser dans un parcours candidat. Et nous avons posé un certain nombre d'hypothèses en disant, si on enlève cette étape de recevabilité, par quoi on la remplace ? Est-ce que cette étape est toujours importante dans son approche constitutive de dossier? Est-ce qu'on peut pas imaginer autre chose? Et ce qu'on a fait, nous sommes allés revoir toutes les pratiques qui avaient été portées notamment par les partenaires sociaux, soit dans les anciens fonds GESIF, Transition Pro maintenant, ou dans les opérateurs de compétences, sur les branches, pour voir un petit peu comment ils avaient imaginé d'amener un autre service, et en tout cas de regarder un petit peu quelles étaient les expérimentations qui avaient été portées, mais bloquées toujours par le texte réglementaire. Et puis, il y a une opération qui nous a beaucoup intéressé, c'est celle qui a été portée par l'AFPA et les DAVA sur les migrants, puisque en fait, ils ont accompagné tout un ensemble de migrants sans preuve et sans papier. Et comment on valide des compétences sans preuve et sans papier? Et donc, on s'est dit, peut-être que cette approche-là n'est pas inintéressante. Et si on remplace cette étape dite administrative par un accompagnement, de remettre l'accompagnement au cœur du système, est-ce que ça va permettre au candidat de choisir la bonne certification, de le conforter dans son choix, de l'aider à faire un travail de positionnement entre les compétences exercées et la certification, et voire même de lui construire un parcours un peu modulaire? Parce qu'on s'est rendu compte que chaque candidat n'avait pas forcément les mêmes besoins, la même approche, la même temporalité dans son parcours de VAE, et on s'est dit, mais est-ce qu'on n'a pas envie de tester un parcours un peu hybride qui mêle accompagnement et acte formatif complémentaire mesuré? On n'est pas là pour se substituer au dispositif de formation continue habituel, mais quand on prépare un DEAES, si on n'a pas la FGSU, eh ben on peut pas présenter le DEAES, et c'est un stage de 2 jours. Et à chaque fois, on était sur des ruptures de parcours. Je passe de l'accompagnement à la formation professionnelle, et on s'est rendu compte que quand on était demandeur d'emploi, eh bien, les conditions de parcours et l'accompagnement de parcours étaient compliquées. Pour les salariés, c'est à peu près la même chose. Et on s'est dit, on va essayer de créer un parcours modulaire de positionnement, d'accompagnement individuel et collectif qui va se construire avec cette nouvelle fonction de l'accompagnateur qu'on a appelé architecte. C'était pas forcément le bon mot, mais cette logique de dessiner un parcours personnalisé nous semblait assez intéressante et de pouvoir dire, ben, on va construire un parcours modulaire et on va y ajouter quelques modules complémentaires mesurés pour permettre la sécurisation du parcours et de donner des meilleures chances aux candidats. Donc, nos premières hypothèses, c'était de transformer l'étape de recevabilité en étape de faisabilité, de remettre l'accompagnement au cœur du système, de construire le parcours modulaire et de se dire peut-être qu'il faut aussi qu'on essaye de regarder comment on peut faire évoluer l'organisation des jeux, qui sont un énorme irritant dans le process, avec des délais courts et très très longs, hein, puisque un certain nombre de candidats aujourd'hui attendent 8 à 1 an pour avoir un jury, et donc c'est un vrai sujet. Et donc nous avons fait une première expérimentation en mode, je dirais, presque bocal, avec 200 candidats, demandeurs d'emploi, permittants. On les a pris de bout en bout pour tester nos hypothèses et mesurer l'impact. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? De quoi on s'est rendu compte? Que globalement, dans la mesure où on prenait le candidat au démarrage jusqu'à la fin, on a réduit à peu près par 4 ou 5, je crois, le nombre d'abandons. C'est-à-dire que sur un parcours où on a 40-50% d'abandon, on est tombé à moins de 5%, puisqu'en fait, il n'y avait plus de raison objective pour abandonner en dehors de ses raisons personnelles, ce qui est tout à fait entendable. Et puis, nous avions commencé à imaginer ce que pourrait être une logique de financement un peu unique, parce que quand on est demandeur d'emploi, vous savez bien, la place des régions est importante sur le financement de la VE, mais elle est très différente, avec des process différents, des montants différents. Et du coup, Pôle emploi arrive en subsidiarité. Et on a des candidats où il n'y a rien, ou pas grand-chose, et puis d'autres où la procédure administrative est très longue. Donc, on avait commencé à regarder un petit peu tout ça. Et à la fin de cette première expérimentation en mode un peu bocal, nous avons fait l'évaluation de mesures d'impact. Et c'est à ce moment-là qu'Elisabeth Borne, qui était encore ministre du Travail, nous a dit, ben, on continue, on attaque la deuxième phase. On part sur un élargissement, qui est donc la deuxième phase. On remet un peu de l'argent capital de la start-up, entre guillemets, et on part sur une année d'expérimentation en élargissant les certifications. C'est-à-dire qu'on est passé de 7-8 certifications à une vingtaine de certifications, du niveau 3 au niveau 6. On élargit le nombre de certificateurs intéressés en y rajoutant notamment le ministère de la Santé, qui n'était pas présent, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Donc, on a la totalité des certificateurs ministériaux à l'exception de la culture. Mais globalement, on a une palette relativement importante des certificateurs. Et nous avons commencé à réfléchir à ce que pourrait être un service public numérique, un portail qui porterait les bases d'un futur service public. Donc, une approche numérique d'une plateforme orientée candidat et non pas orientée écosystème. Nous avons également, dans cette deuxième phase, commencé à regarder ce que pourrait être challenger le renforcement de l'accompagnement du candidat via l'architecte de parcours. On a trouvé que c'était intéressant et du coup, on a mis sur la table tout type d'accompagnement, le segmentant, on va couper en deux la fonction architecte et la fonction accompagnement, on va faire des parcours complets. L'idée, c'était de regarder quels effets ça produisait sur la sécurisation du parcours. Donc, on a eu plusieurs modèles d'architectes de parcours, des structures d'origine publique, des structures privées, des acteurs du CEP. Nous avons morcelé des parcours, nous avons expérimenté un petit peu toutes les options possibles imaginables et nous avons regardé comment le candidat se sentait le plus à l'aise et quels étaient les dysfonctionnements de nos hypothèses. Et puis, l'État, et notamment la haut-commissaire aux compétences, a considéré que la logique du financement unique devait être éprouvée. Et donc, nous avons une ligne de crédit relativement importante du plan d'investissement dans les compétences pour dire, eh bien, nous allons challenger aussi le financement unique qui pourrait être un socle de financement sur lequel le candidat, peu importe son statut, n'irait plus à courir après ses financements divers et variés, que ce soit chez son AT Pro, que ce soit chez Pôle emploi, que ce soit la région, que ce soit sur sa branche. En fait, l'idée, c'est de tester aussi cette hypothèse. Et puis, point important, c'est le processus d'innovation de l'organisation des jurys. C'est un de nos gros points durs. Et nous avons commencé à mener ce qu'on appelle des ateliers itératifs de changement de pratique, de voir comment, dans l'organisation des jurys, quelles étaient leurs difficultés, quels étaient leurs freins, comment on pouvait associer plusieurs ministères ensemble, comment on pouvait partager éventuellement ensemble des compétences en matière de jury, comment on pouvait partager des locaux pour organiser des jurys. En fait, on a essayé aussi de faire un peu de transformation publique. C'est compliqué, c'est long, il faut aller au rythme des administrations, et toujours en étant centrique utilisateur. Et enfin, c'est un de nos points de la préconisation du premier rapport, qui était de se dire, on fait tout ça, mais si on ne change pas les textes, on n'y arrivera pas. Puisqu'en fait, toutes les expérimentations qui ont été montées par les partenaires sociaux, par tous les acteurs de l'écosystème sur la VAE, étaient toujours bloquées sur les textes historiques portés par le Code du travail et par le Code de l'éducation. Et donc, l'engagement d'Elisabeth Borne avant de partir, avant sa promotion en tant que Premier ministre, était de dire nous allons contribuer à avancer sur une évolution réglementaire. Et donc, à chaque fois, nous avons regardé les choses, et donc nous sommes toujours partis sur la filière du sanitaire et social. Aujourd'hui, on a dessiné un parcours candidat qui prend en compte la phase de réflexion, c'est-à-dire loin de nous l'idée je ne suis pas encore au clair sur ce que je veux faire, sur ma certification. J'ai besoin d'un relais, d'une information. On renvoie sur les plateformes existantes, en tout cas les structures d'accueil existantes. Je pense notamment au point relais conseil, mais aussi à toutes les structures de conseil qui arrivent sur la VAE. Et puis le candidat va se connecter sur le portail et va commencer à démarrer son parcours. Et donc nous avons dessiné un parcours numérisé, mais en même temps avec beaucoup, beaucoup d'humains derrière. En sachant que si vous allez sur notre première brique de portail aujourd'hui, qui s'appelle reva.beta.gouv.fr, vous avez un chatbot, mais c'est pas un robot qui répond, c'est mon équipe. Puisqu'en fait, derrière, ça nous permet de voir tous les dysfonctionnements ou toutes les interrogations de l'écosystème et de classer toutes les difficultés que nous rencontrons pour évidemment améliorer le produit. Ce qui veut dire que toutes les semaines, nous mettons en production des nouvelles avancées sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, nous sommes quasiment en fin de la phase d'investigation et la première phase qui était une phase donc d'élargissement, puisque nous allons finir exactement le fin juin. Et donc nous avons il y a 15 jours, 4000 candidats qui ont démarré leur parcours, 2400 qui ont franchi l'étape du dépôt de la recevabilité, et pour l'instant nous sommes à 9% d'abandon des candidats entre la séance d'information et la mise en place du parcours. Nos premiers jurys viennent d'avoir lieu. On a déjà une vingtaine de candidats qui ont passé leur jury avec des taux quasiment soviétiques, à 99% de réussite, un abandon, un rejet complet. Donc c'était assez surprenant. Mais dans les premiers résultats de la première expérimentation, nous étions sur un taux d'obtention de diplôme de 87%, dont 68% de certification totale. L'idée, c'est vraiment d'inscrire la VAE dans une logique de parcours, de pouvoir, comme l'a souligné Axel, que l'architecte de parcours puisse reprendre la main, notamment en fin de certification, notamment en cas d'échec ou de validation partielle, pour réinscrire le candidat dans un process vertueux dynamique. Et donc, c'est tous ces points-là que nous challengeons aujourd'hui. Et nous allons donc préparer au 1er juillet, mais je laisserai Axel en parler sur la réforme et ce qu'on va faire au 1er juillet, nous allons lancer donc la quatrième phase, qui va être maintenant la phase de transfert, et donc de lancement de la réforme. Nous ne pouvions pas faire ce point-là, bien évidemment, avant l'évolution réglementaire, et donc c'est cette phase-là que nous démarrons. Même chose que nous produisons, rapport d'évaluation. Nous avons rendu au ministère déjà trois rapports d'évaluation, deux sur la phase actuelle. Nous allons rendre un dernier au mois de juillet sur chacune des étapes. Et sur chacune des étapes, nous regardons l'impact candidat. Ce qui est un point important pour nous, c'est que le futur portail que vous allez voir bientôt est un portail construit avec les usagers et autour de l'usager. Et l'idée, c'est que l'usager comprenne bien ce qu'il fait et ce qu'il doit faire. Et donc, nous avons bâti nos premières briques avec des gens qui étaient des assistantes de vie dépendance, des femmes de ménage, des aides-soignantes. L'idée, c'est de ne pas laisser, de rendre accessible le numérique à nos concitoyens, de le faire de manière ludique et pas très austère, tout en étant très sérieux. Voilà, c'est notre mission. Et donc, entre-temps, l'équipe de Carole Grandjean a travaillé, et je redonne la parole à Axel sur la réforme réglementaire.
Merci Olivier. Donc effectivement, à la suite de la phase expérimentale, décision a été prise de tirer les conclusions à la suite des divers rapports qui nous avaient été remis et, il faut le dire, du succès qu'on constatait sur la nouvelle approche qui avait été celle de Reva sur le dispositif, de traduire tout cela dans les textes et d'opérer ce qui était appelé par l'ensemble des acteurs de la VAE de leur vœu, une réforme en profondeur de ce dispositif selon les modalités qui avaient été mises en œuvre et testées dans le cadre de Reva. Alors, cette réforme, elle est lancée à l'été 2022 et elle est votée pour sa partie législative dans le texte du 21 décembre 2022, le texte dit marché du travail, qui était le texte qui comportait également les dispositions relatives à l'assurance chômage. Le but de cette réforme, et c'est peut-être important de le dire, elle s'inscrit dans une logique qui est, vous le savez, d'atteinte du plein emploi. C'est un des objectifs capitaux de ce quinquennat, avec pour ambition d'élargir ou de renforcer le panel des dispositifs permettant à chacun soit de renforcer son employabilité, soit de permettre des évolutions, reconversions ou même de l'insertion professionnelle. Tout est fait pour inciter, vous le savez, à l'emploi, mais tout est fait également pour permettre le meilleur emploi possible. Et la VAE s'inscrit véritablement dans cet objectif, puisque si elle a une vertu évidente d'insertion dans l'emploi par l'accession à la certification, elle a aussi pour ambition de faciliter les évolutions professionnelles, y compris au sein d'une même entreprise, par reconnaissance bien des compétences acquises par le salarié et de permettre, notamment dans des fins de carrière, eh bien, de passer un cran dans son niveau de certification, éventuellement un cran soit dans le poste occupé, soit dans la rémunération qui est due aux salariés. Donc, il était important pour nous que cette réforme intervienne dès le début du quinquennat, de sorte qu'on puisse avoir le temps d'abord de l'opérationnaliser, on y reviendra, et ensuite que les bénéficiaires eux-mêmes aient le temps de se saisir des nouvelles modalités de la VAE, mais également le temps, et c'est pas rien de le dire devant des représentants du MEDEF, bien que la VAE rentre plus profondément dans les entreprises, justement pour mettre en œuvre cette logique de parcours, cette logique de carrière, par reconnaissance de l'engagement d'un salarié au sein d'une entreprise. Alors, la réforme, elle s'articulait autour de trois objectifs. Un premier objectif qui était de simplifier les choses, évidemment. Un deuxième objectif qui était de sécuriser au maximum les parcours des candidats à la VAE. Et puis un troisième objectif qui était de moderniser à la fois la gouvernance de cette politique publique, mais également de moderniser son accès pour les bénéficiaires. Alors, simplifier la VAE, quelle forme ça a pris? Alors d'abord, et vous me pardonnerez pour la technicité de ce point, mais c'était surtout faire un grand ménage dans la diversité des textes qui évoquaient la VAE. On le disait, la VAE était un peu gérée dans le code du travail, un peu gérée dans le code de l'éducation, et puis avec des dispositions spécifiques pour ce qui relevait de l'enseignement supérieur. Bon, simplifier, c'était aussi avoir un régime juridique unifié. Et je le disais, la VAE s'inscrivant dans l'objectif de plein emploi, il nous apparaissait tout à fait logique de l'unifier autour du code du travail. Mais simplifier la VAE, c'était surtout en simplifier l'étape de recevabilité dont elle avait, dont on savait qu'elle était pointée comme la plus complexe, et de la traduire dans les textes, de traduire dans les textes cette étape de faisabilité qui faisait un petit peu la marque de Reva, et qui permettait de passer d'une logique purement administrative, hein, quelque part, à une logique qui était plus respectueuse des compétences en entrée de parcours de la du candidat. Alors, sans remettre en question, parce que opérationnellement, il nous fallait quand même conserver une étape qui permettait de faire un petit peu de la distinction entre la VAE justifiée, pertinente et qui a du sens dans le parcours et qui peut être faite compte tenu des compétences de la personne, et une VAE qui finalement irait droit dans le mur et qui mettrait le bénéficiaire plus dans l'embarras que ce qu'il ne l'était en entrée de parcours. On devait garder quand même un filtre en entrée de parcours, mais il y a plusieurs manières de faire le filtre, soit une manière purement administrative qui était l'ancienne version, et une manière un peu plus respectueuse, je le disais, des compétences de la personne autour d'un entretien préalable de faisabilité qui fait intervenir cette fonction d'architecte accompagnateur de parcours. C'est lui qui, dès l'entrée dans le parcours, eh bien, fait cette première évaluation, ce premier tour d'horizon des compétences et expériences du candidat pour évaluer la pertinence d'abord de la certification visée, ensuite la pertinence de se lancer dans une validation des acquis d'expérience au regard de ce qui a été constaté en matière d'expérience et de compétences, mais également au regard du projet professionnel de la personne. Et puis enfin, qui, si il estime pertinent de se lancer dans une VAE, eh bien, va construire, co-construire avec le candidat le meilleur parcours possible du point de vue de l'intensité de l'accompagnement qui sera proposé à ce candidat. Donc, on a traduit ce premier élément de simplification. Concrètement, pour l'usager, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez un entretien avec un spécialiste autour de votre parcours expérientiel et on ne vous demandera rien d'autre. Voilà. Pas de preuves à accumuler ni à récupérer, pas de dossier administratif, plus long qu'un dossier de faisabilité qui comporte 2 pages, l'essentiel se fait dans un rapport d'itération avec l'architecte accompagnateur de parcours. Deuxième axe d'intervention de la réforme, c'était un axe de sécurisation des parcours. On voulait agir sur le taux d'accès à la certification et si possible à la certification dans son intégralité. C'est passé par deux leviers législatifs. Le premier, qui est en lien avec la première étape de simplification, qui était l'institutionnalisation d'un architecte accompagnateur de parcours, qui permettait de faire le lien, de rendre homogène cet accompagnement et qui permettait d'instaurer, de garantir au candidat qu'il aurait un point d'attache permanent, et ce, dès son entrée dans le dispositif jusqu'à la prise en charge post-décision du jury. Voilà. On a un phare dans la nuit lorsqu'on est candidat à la VAE désormais, c'est notre architecte accompagnateur de parcours. C'est vers lui qu'on peut se tourner pour avoir de l'information, pour avoir des conseils, pour réaliser l'accompagnement à la fois l'étape de recevabilité comme sur l'étape de validation. Donc, l'architecte accompagnateur de parcours est là en continu au service du candidat. Et puis, on a également, sur cet aspect de sécurisation des parcours, décidé de rompre avec le postulat qui était, pour nous, je le disais, complètement illusoire de recouvrer 100% du référentiel de certification lorsqu'on entrait dans un parcours, en ouvrant la VAE à des compléments formatifs. Alors attention, ce n'est pas de la formation à proprement dit, on n'est pas sur une action de formation pleine et entière, c'est du complément formatif, ce qui justifie que dans l'opérationnalisation, on limite quand même le nombre d'heures de formation accessibles dans le cadre de la VAE, mais c'est une évolution importante. on permet à un candidat à la VAE d'actualiser ses compétences, de renforcer des compétences existantes. On permet à un candidat d'acquérir de nouvelles compétences, de sorte que lorsque il construit son parcours de validation, eh bien, il puisse aller chercher dans la formation toute la sécurité nécessaire, toutes les compétences manquantes pour être eh bien au top de sa forme, je dirais, devant le jury et sécuriser son accès à la certification. C'est une évolution considérable dans la manière de concevoir la VAE, dans la philosophie même du dispositif. Et puis, alors c'est d'autant plus vrai sur les certifications du sanitaire et social et de la santé, on a également ouvert le parcours de VAE à l'observation, à la PMSMP, à la période de situation en milieu de mise en situation en milieu professionnel. Pourquoi ? Parce que parfois la compétence est acquise dans un certain cas, un environnement professionnel. Et je le disais, c'est d'autant plus vrai dans le sanitaire social lorsque vous visez une certification d'aide-soignante. Il n'est absolument pas pareil d'être aide-soignant dans un EHPAD que dans un milieu hospitalier, a fortiori lorsqu'on est dans une unité de soins intensifs. Et pour être un bon aide-soignant, eh bien, il faut avoir exercé, c'est en tout cas un élément qui pèse dans la décision du jury, dans divers environnements professionnels. Eh bien, pour ne pas pénaliser les personnes qui, pour des raisons ou pour une autre, n'auraient été aide-soignants que dans un EHPAD, par exemple, eh bien, on va permettre une orientation dans le cadre d'une PMSMP, dans tel ou tel environnement, qui permettra de diversifier et de renforcer les compétences de la personne. Donc, dans cet axe de sécurisation, on a ouvert la possibilité de renforcer, actualiser et acquérir de nouvelles compétences pour maximiser les chances de réussite. Et puis, un troisième axe d'intervention législative qui était la modernisation. Alors, on a modernisé autant dans la gouvernance de cette politique publique que dans son accessibilité au public. Je vais commencer par la gouvernance parce qu'on s'appesantira un peu plus sur le service public que l'on a institué, mais on a souhaité, et Olivier l'a évoqué tout à l'heure, parmi les points sur lesquels on avait une difficulté, c'était la diversité à la fois des institutions compétentes en matière de VAE, qui avait pour conséquence d'avoir une diversité de financement accessible et donc in fine, une forme de un manque de lisibilité de l'action publique en la matière pour nos concitoyens. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de regrouper la gouvernance de cette politique publique autour d'un groupement d'intérêt public qui aura pour ambition d'administrer un nouveau service public. Donc on a inscrit noir sur blanc dans la loi, on a identifié un nouveau service public de la validation des acquis de l'expérience. Un nouveau service public, ça arrive avec des principes fondamentaux attachés au service public, évidemment, et donc la nécessité que tous les acteurs de la VAE soient associés à l'administration de ce service public, puisque chacun pourra en faire un usage particulier dans le périmètre de compétences qui lui est attribué. Alors évidemment, l'État, je le disais, s'en saisira dans son ambition d'accès au plein emploi. Les régions s'en serviront dans leur politique territoriale d'accès à l'emploi et à la formation. Les associations de transition professionnelle s'en serviront également dans une logique de parcours pour favoriser les reconversions professionnelles et calibrer, individualiser les parcours des candidats. Et elles le savent très bien, mais c'est important de le rappeler, lorsque l'on s'intègre dans un parcours de reconversion professionnelle, eh bien, parfois il n'est pas forcément utile de repasser sur toutes les compétences qui mènent vers le nouveau métier visé, puisqu'on a des compétences transverses qui peuvent, elles, être reconnues par le biais de la VAE et ainsi réduire le temps de formation nécessaire. C'est aussi là un vecteur important d'attractivité des dispositifs. Promettre à quelqu'un que tout ce qu'il a fait avant dans un esprit de reconversion ou d'évolution professionnelle, ça n'a pas servi à rien, ça sera officiellement reconnu et ça permettra de comprimer les durées de parcours pour ne les limiter qu'au strict nécessaire dans l'étape de reconversion. C'est un levier important d'attractivité pour nos concitoyens évidemment et pour les actifs. Donc, on a créé ce groupement d'intérêt public chargé d'administrer ce nouveau service public et qui permettra à l'ensemble des parties prenantes à la VAE,
J'ai oublié évidemment Pôle emploi dans mon exposé, mais Pôle emploi effectivement pourra aussi se saisir de la VAE auprès de ces publics. L'ambition est que on ne fonctionne plus dans une logique de silo, mais bien dans une logique de coopération autour de ce service public. Et puis, ce service public, on a déterminé dans la loi qu'il prendrait la forme d'un service public numérique autour d'une plateforme dédiée. Et c'est là l'évolution de la plateforme qui a été testée dans le cadre de l'expérimentation dirigée par Olivier et que nous allons déployer en juillet au niveau national et qui constituera le point d'entrée unique désormais de tous les parcours de VAE. Alors évidemment, on aura une montée en charge progressive jusqu'à 2024 de cette plateforme, c'est-à-dire qu'on va y implémenter progressivement l'ensemble du périmètre de certification éligible à la VAE, mais nous avons souhaité prioriser notre action autour de plusieurs secteurs d'activité qui connaissent les tensions de recrutement les plus importantes, dont le sanitaire et social et la santé, le sport, puisque vous savez qu'on a des échéances assez importantes en 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris, la grande distribution, la logistique et le transport.
Et la métallurgie, pardon.
Donc pas la logistique et le transport qui viendront après, mais la métallurgie. Donc on va avoir ces axes prioritaires directement disponibles dans la plateforme dès le mois de juillet. Donc des parcours nouvelle génération qui prendront corps dès le mois de juillet, et puis progressivement une intégration des certifications éligibles à la VAE dans cette plateforme. L'objectif, c'est que à la fin du premier semestre 2024, eh bien on soit passé définitivement à la nouvelle VAE et que ce service public soit accessible sur l'intégralité du périmètre de certification éligible à la VAE. Cette plateforme, elle est, donc je le disais, sectorialisée, de sorte que les branches puissent également se saisir de la validation des acquis d'expérience, de construire des stratégies d'accès aux compétences, de reconnaissance des compétences et d'accès aux certifications faisant usage de la VAE. Donc on aura pour chaque secteur d'activité, donc les secteurs d'activité prioritaires, mais demain tous les secteurs d'activité, eh bien des pages dédiées au sein de cette plateforme qui pourront être travaillées, et j'insiste là-dessus, avec les branches et fédérations professionnelles pour promouvoir d'une certaine manière, proposer en fait des parcours types de VAE, parce que faire un usage de la VAE dans le secteur sanitaire et social, c'est évidemment pas la même chose que de faire usage d'une VAE dans le secteur de la métallurgie. On le fait pour des raisons différentes, on le fait dans des stratégies différentes, il y a des parcours types qui eux-mêmes peuvent être différents, et nous on a estimé qu'il était important de donner de la perspective à nos concitoyens en matière de VAE, parce que lorsqu'on s'intéresse un peu de loin à la VAE, il est important que dans un secteur, on vous dise, ben voilà, la VAE, elle peut être utilisée sur telle compétence, elle peut être utilisée sur telle certification et elle conduit à tel métier. Et voilà la logique de parcours qu'elle peut initier. Donc donner un peu de matière sur à quoi ça sert la VAE dans mon parcours professionnel, quels sont les avantages que je peux en tirer moi en tant que bénéficiaire. Donc c'est pour ça que je disais que l'implication des branches, l'implication des entreprises là-dedans est importante, et c'est la raison pour laquelle on a eu une approche sectorielle au sein de cette plateforme. Mais on a aussi une approche territorialisée, parce que faire une VAE en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien c'est pas forcément la même chose que de faire une VAE en Île-de-France ou dans le Grand Est. Pourquoi ? Parce qu'on a des services qui sont différents. Vous savez que les régions sont compétentes en matière d'accompagnement à la VAE des personnes en recherche d'emploi. Elles ont elles-mêmes déployé des dispositifs, notamment d'information avec les points relais conseils sur leur territoire. Et il est important pour un bénéficiaire, eh bien, de connaître l'offre de services territorialisés qui se trouve autour de lui. On aura, c'est certain, des personnes personnes totalement autonomes en matière de VAE, mais on aura aussi d'autres personnes qui auront à un moment besoin d'avoir quelqu'un en face d'elles pour les rassurer, pour leur expliquer et pour avoir toute l'information nécessaire. C'est le rôle des points relais conseils pour ce qui relève des régions, c'est le rôle des DAVA pour ce qui relève du périmètre de certification de l'éducation nationale, c'est le rôle de nos DRETS aussi pour ce qui relève du ministère du Travail, parfois de l'AFPA qui porte, je rappelle, une partie de la politique de certification pour le nom pour le compte du ministère du Travail. Il est important de mettre en visibilité de nos concitoyens et bien toute cette offre de services qui depuis des années a été construite autour de la VAE. Donc une plateforme sous forme de service public, point d'entrée unique pour nos concitoyens, mais qui n'occulte pas les spécificités de secteur et les spécificités territoriales. Et un déploiement progressif jusqu'à la fin du premier semestre 2022. Et un groupement d'intérêt public qui est en train de se construire, de se définir autour de ses missions, autour de ses des éléments très concrets hein, de plan comptable, droit applicable et autres joyeusetés que Olivier a la chance de diriger pour le ministère. Ce groupement d'intérêt public, il se construit en lien avec évidemment les régions, mais également Pôle emploi, également les associations de transition professionnelle, l'AFPA. C'est-à-dire l'ensemble des les opérateurs de compétences évidemment, c'est-à-dire l'ensemble en fait des personnes que le Code du travail a reconnues comme compétentes et pouvant intervenir à un moment dans un parcours de VAE. Voilà, je ne sais pas si Olivier tu veux rajouter quelques...
Juste 30 secondes Axel, pour préciser que au 1er juillet nous sommes donc dans la phase de transfert, donc nous construisons encore le portail hein, au fur et à mesure, on est en mode itératif, vous n'allez pas avoir un truc tout fini, tout fait, on va lancer deux chantiers à partir du mois de juillet, ce que nous on appelle le back-office des certificateurs, c'est-à-dire le lien que nous allons faire avec les certificateurs, le back-office des régions a démarré déjà, la construction des pages régions ont démarré et nous allons attaquer plus tard, en septembre, octobre, ce que pourraient être les pages régionales, de branches et de filières. Donc voilà, on est vraiment toujours dans la co-construction en permanence. Et l'idée, c'est qu'on teste, on recueille les besoins des acteurs et on construit au fur et à mesure. Donc cette phase de test de préfiguration au mois de juillet, elle va concerner donc 4 secteurs, 200 certifications, ce qui va nous permettre encore une fois de challenger nos hypothèses de travail et de les conforter et de voir comment on va classifier les titres et les diplômes, comment on va les intégrer, comment on va référencer les architectes accompagnateurs de parcours. On a encore beaucoup de travail, bien évidemment. Voilà.
Juste les architectes de parcours seront choisis comment, dans quelle échéance également?
Alors, sur les architectes de parcours, le choix d'utiliser les acteurs du marché qui existent. On va upgrader, entre guillemets, ce qu'on attend en termes d'exigences sur les phases d'accompagnement. Donc nous allons très prochainement faire un recueil d'amarrage à la plateforme des l'ensemble des accompagnateurs certifiés Calliope VAE avec un cahier des charges complémentaire, et à partir du 12 juin ils vont pouvoir se référencer sur la plateforme, on va les classifier, on va mettre en place des webinaires, etc. Nous allons donc lancer cette phase de référencement dans la plateforme à partir du 12 juin.
Le but pour nous sur la fonction d'architecte de parcours, c'est de ne pas réinventer l'eau chaude. On a aujourd'hui un marché constitué d'accompagnateurs à la VAE qui, pour certains d'ailleurs, ceux qui interviennent au stade pré-recevabilité, endosse quelques-unes des missions que l'on attend de l'architecte accompagnateur de parcours. Donc on n'a pas vocation à créer une nouvelle fonction en tant que telle, mais bien de professionnaliser et d'étendre les compétences des accompagnateurs à la VAE telles qu'ils existent aujourd'hui sur le marché. L'ambition, c'est que chaque accompagnateur, s'il le souhaite demain, eh bien puisse se saisir de ses nouvelles missions en tant qu'architecte et pourront de ce fait être référencés sur la plateforme. Sur le mode de fonctionnement de la plateforme, là aussi, on a de l'expérience sur le sujet, puisque en matière de référencement et ensuite de fonctionnement d'un service public numérique, on a l'antériorité du CPF qui, lorsque vous recherchez une formation, est capable de vous faire une liste d'organismes de formation qui délivrent la certification visée, qui forment, pardon, à la certification visée, et charge à vous de choisir celui qui vous plaît le mieux dans la limite, ou pas d'ailleurs, des crédits qui sont disponibles sur le CPF. Bon, on aurait une logique à peu près similaire sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on va référencer des organismes accompagnateurs à la VAE qui s'engagent à mettre en œuvre les missions d'architecte de parcours. Et puis la plateforme proposera à chacun des candidats plusieurs architectes accompagnateurs de parcours. Et puis le candidat choisira quel est celui avec lequel il veut réaliser son parcours. Donc on est sur une logique qui est, un, de capitaliser sur les compétences existantes dans le marché de l'accompagnement à la VAE, et deux, une logique proche d'un fonctionnement CPF. Peut-être vous dire que on entre dans une seconde phase d'opérationnalisation qui est la phase réglementaire, puisque si la réforme sur son plan législatif a été réalisée fin 2022, eh bien nous devons la mettre en œuvre désormais du plan du point de vue réglementaire, et c'est ce que nous faisons avec les équipes de la DGFP, mais surtout avec l'ensemble des ministères certificateurs. On devrait être en mesure de présenter des textes courant début du deuxième semestre 2023.
Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes pour répondre à des questions, si votre emploi du temps le permet. Que faire, pardon, pour lever les réticences de certains ministères certificateurs à délivrer leur diplôme par la voie de la VAE?
Que faire? Travailler avec eux et surtout maintenir, enfin avoir un dialogue constructif. C'est exactement ce qu'on fait c'est la méthodologie qu'on a retenue dans le cadre de l'aspect réglementaire de cette réforme. Moi, je ne constate pas aujourd'hui de réticence principielle autour de la VAE, mais plutôt, et c'est sur ça qu'on doit travailler, des politiques de certification différentes d'un certificateur à l'autre, qui ne permettent pas, et je prends par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur, qui ne permettent pas un déploiement de la VAE aussi simple que pour le ministère du Travail. Je prends également, par exemple, le ministère de la Mer ou le ministère de la Défense, qui ont des politiques de certification extrêmement particulières, soumises à des droits eux-mêmes très particuliers, parfois couverts par le secret défense. Mais rien n'est impossible. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même réussi, un, à convaincre autour de la nécessité de la réforme, deux, à convaincre sur les axes d'intervention de la réforme. Il ne nous reste plus finalement qu'à adapter cette réforme aux spécificités de chacun des ministères. Alors, j'insiste quand même, l'idée est qu'on ait une VAE la plus unifiée possible, mais qui ne nie pas que la politique de certification, notamment sur la politique de master de l'enseignement supérieur, eh bien, ne rentre pas totalement dans les cases du service public que l'on peut construire. Le but, eh bien, c'est qu'on continue à travailler avec eux. Aujourd'hui, on a quand même des certificateurs qui voient l'intérêt de faire usage de la VAE dans leur politique de certification. Et on a surtout l'opportunité, à travers les textes réglementaires, de construire un usage de la VAE qui leur est spécifique et qui permettra de répondre à leurs besoins. Donc, c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre des textes réglementaires.
Merci beaucoup. Comment mieux utiliser le conseil en évolution professionnelle pour articuler les VAE partiels avec des parcours raccourcis en PT, en projet de transition pro financé via les AT Pro?
Bien, le PTP, il peut intervenir, le CEP, il peut intervenir soit en amont d'une VAE, et parce que le CEP pourra orienter la personne vers un dispositif de VAE, soit en aval. On le disait, lorsque la certification est partiellement acquise, il y a besoin d'un accompagnement spécifique du candidat pour l'inscrire dans une logique de parcours. Si besoin, c'est effectivement une prise de relais par le conseil en évolution professionnelle qui pourra être opérée dans ce cadre-là, de même que en amont de la VAE pour les personnes qui en auraient besoin, eh bien le CEP peut être la première étape quelque part vers le parcours de VAE.
Ça veut dire qu'il peut faire assurer l'entretien préalable.
Le CEP, non, c'est l'architecte accompagnateur de parcours qui l'assurera. En revanche, le CEP peut être une étape avant cet entretien préalable d'orientation vers la VAE. Mais l'entretien de faisabilité, lui, est bien réalisé par l'architecte accompagnateur de parcours qui se positionnera, comme on l'a dit, plus sur l'existant en matière d'accompagnement à la VAE. Mais je pense que ils sont complémentaires. Le CEP peut quelque part être soit avant le dispositif de VAE, soit après la décision du jury, dans une idée de construction d'un véritable parcours pour le bénéficiaire.
Merci. On a quelqu'un du réseau des CARIFOREF qui explique que les CARIFOREF gèrent l'observatoire des parcours et la professionnalisation des acteurs. Comment les CARIFOREF ou le réseau pourront poursuivre leurs actions dans le cadre du GIPREVA, notamment dans la professionnalisation des acteurs, des architectes accompagnateurs de parcours?
Alors ça, c'est des discussions qu'on ouvrira à l'occasion de la définition de ce service, de ce groupement d'intérêt public. Mais je pense que les CARIFOREF le savent. Je suis assez fervent défenseur de la mission de professionnalisation qu'ils portent, que ce soit d'ailleurs sur les organismes de formation comme les CFA. Donc on regardera de près les propositions qui peuvent être faites de reprise de cette compétence au sein du groupement d'intérêt public. Dans tous les cas, ce que je tiens à préciser à nos collègues des CARIFOREF, c'est qu'aujourd'hui la réforme ne met pas du tout en question cette compétence-là. Vous pouvez continuer à l'exercer auprès des organismes accompagnateurs à la VAE. Charge à nous de réfléchir à comment on l'organise dans ce nouveau cadre de gouvernance. En tout cas, la réforme n'a pas du tout remis en question cette compétence des CARIFOREF.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il est prévu des aides pour les entreprises de type aide exceptionnelle à l'alternance?
Non, pour l'instant, il n'est pas prévu d'aide à la VAE. Je précise que le congé VAE est passé d'une durée de 24 à 48 heures dans le cadre de la réforme, ce qui reste raisonnable et qui nous a paru équilibré dans la relation de travail, mais aujourd'hui il n'existe pas effectivement de dispositif d'aide aux employeurs, mais quelque part, enfin, l'employeur n'est pas responsable de la formation de la personne qui s'engage dans la VAE, comme il peut l'être dans un parcours d'alternance. Ce qui justifie que dans le cadre de l'alternance, que ce soit contrat de pro ou apprentissage, on ait souhaité par l'aide aussi reconnaître le rôle de l'employeur dans la formation, ce qui n'est pas du tout le cas de la VAE.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le dispositif remet les entreprises et les partenaires sociaux, enfin la manière dont on a compté, au cœur du dispositif. Enfin, moi, je trouve que les branches ont un vrai travail de co-construction, de remettre les parcours dans des logiques de leur politique de branche, non pas d'aller, mais en plus d'aller dans une politique d'abondement. C'est-à-dire que globalement, nous, ce qu'on attend des entreprises, c'est pas qu'on leur donne des aides, c'est qu'elles abondent, qu'elles facilitent les choses et qu'elles accompagnent évidemment la transition, la reconnaissance, la certification. Et notamment, elles peuvent le faire dans le cadre des politiques de branche. C'est clair que le parcours va être un parcours entre guillemets standardisé, mais qui pourrait être co-construit avec les branches professionnelles qui pourront y mettre, avoir une politique d'abondement. Par exemple, sur les coûts des jurys, parce que ça coûte un peu plus cher, ou pour des parcours un peu plus complémentaires. L'idée, c'est de remettre dans les partenaires sociaux au cœur du dispositif.
Du coup, en lien avec cette précision, certains expérimentent ou réfléchissent à de la VAE collective. Est-ce que la plateforme pourra le prévoir dans une approche à l'initiative d'une entreprise, oui, et de plusieurs collaborateurs?
Oui, nous le faisons déjà, puisqu'on a notamment une entreprise qui est en train d'accompagner 250 salariés en même temps, et une autre une centaine. Donc on a 4-5 entreprises qui sont dans une approche collective. Donc là, on regarde, on teste, on voit les difficultés. Mais effectivement, on a plusieurs entreprises de taille importante qui en ce moment sont en approche collective.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur
Et justement, dans le cadre des aides, est-ce que dans le cadre de l'expérimentation contrat de pro, est-ce que les aides AFE et aides exceptionnelles seront du coup mobilisables?
Oui, dans le cadre de l'expérimentation qu'on a lancée donc la semaine dernière en matière de VAE inversée, celle-ci s'appuyant sur un contrat de professionnalisation, elle sera l'aide de 6000 euros est effectivement bien mobilisable. Mais là, vous voyez bien la différence, c'est que en matière de VAE inversée, c'est ma faute, hein, je prends sur moi, mais elle a été très mal nommée, cette expérimentation, puisque la VAE est finalement accessoire au parcours. L'essentiel du parcours, c'est surtout une action de formation en situation de travail dans laquelle l'employeur est très fortement mobilisé, puisque c'est lui qui, avec l'organisme de formation, construit le parcours pédagogique du candidat au sein de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une modalité d'offrir à la fois une assise conventionnelle et financière à de l'action de formation en situation de travail. Il y a un investissement considérable de l'employeur dans ces parcours-là, ce qui a justifié effectivement qu'on aligne le régime juridique aujourd'hui du contrat de pro et des aides qui vont avec. Mais sur de la VAE classique, cette action de formation, elle n'existe pas d'abord et elle n'est pas du tout supportée par l'employeur. Donc on est vraiment sur deux approches très différentes.
Encore deux petites questions et avant de vous libérer, si vous êtes d'accord. Dans le cadre de la transition énergétique, beaucoup de métiers et certifications n'existent pas. Une transition via Transco permettra d'initier les parcours à conforter dans le cadre de la VAE. Est-ce prévu?
Alors, je suis pas certain d'avoir pleinement compris la question, mais je vais quand même tenter d'y répondre. Il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, et on le sait, c'était d'ailleurs toute la logique du plan France 2030, on a encore beaucoup de métiers à inventer et de certifications qui vont avec. L'objectif, et je pense qu'on y parviendra parce qu'on a une forme d'agilité, on aura demain une forme d'agilité à la fois dans le cadre de la gouvernance du service public, mais aussi dans sa mise en œuvre. On pourra, dès qu'une nouvelle certification sera sur le marché, entre guillemets, et que le certificateur aura décider qu'elle serait accessible par la voie de la VAE, et bien de l'intégrer dans le service public et de la rendre accessible par la voie de la VAE via ce service public assez rapidement. Donc la VAE suivra aussi le besoin d'agilité et de réactivité en matière d'accès aux nouveaux métiers. Après, avec la limite que cela comporte, lorsque le métier est nouveau, normalement, on n'a pas vraiment d'antériorité dessus. Il faudra attendre quand même quelques années, potentiellement, pour accéder à des VAE. Mais en tout cas, ce qu'on peut garantir avec le service public et son aspect numérique et sa gestion dédiée, c'est que on aura une forme d'agilité. Le projet de transition professionnelle, pourra de toute façon effectivement conduire à ces nouvelles certifications parce qu'il fera appel à de la formation à la formation nécessaire pour cela, mais je le disais, l'ambition et ça marche en fait pour tous les financeurs de formation, l'ambition c'est que on ait des parcours les plus individualisés possibles et pour cela que l'on puisse faire usage de la VAE, et le PTP pourra le faire, c'est-à-dire que lorsqu'on formera sur un métier de demain, sur une nouvelle certification dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, eh bien on pourra au préalable faire valider par la voie de la VAE toutes les compétences qu'on a acquis dans le métier que l'on quitte, mais qui sont malgré tout nécessaires dans le métier que l'on vise, et ce, aussi nouveau qu'il soit, il y a des compétences transversales qu'on ne réinventera pas et qui pourtant peuvent être reconnues dans le cadre d'une validation des acquis d'expérience, de sorte que la formation en soit raccourcie et vraiment ciblée sur les compétences cœur et le geste professionnel. Une agilité qui sera permise par le service public et un usage de la VAE qui pourra être fait par tous les financeurs de formation pour individualiser les parcours et faire reconnaître ce qui est déjà acquis et former à de nouveaux métiers plus rapidement.
Merci. Une dernière question. Le référencement des architectes de parcours sur la plateforme débuterait en juin 2023. Quelle professionnalisation est envisagée en lien avec Calliope et dans quel timing, s'il
Alors, le timing, c'est celui de la réforme. Hein. De toute façon, on devra nécessairement être prêt au plus tard, je le disais, à la fin du premier semestre 2024. Effectivement, une des pistes qui est sérieusement envisagée, c'est d'étendre la certification Calliope qui existe déjà pour les accompagnateurs à la VAE l'architecture de parcours, ce qui nous permettrait d'ailleurs de professionnaliser progressivement ces accompagnateurs à la VAE pour se saisir des missions attendues en matière d'architecture de parcours, de sorte qu'à la fin on ait des architectes accompagnateurs de parcours. Donc le levier Calliope nous paraît assez intéressant parce que il reconnaît aussi le travail qui est déjà mis en œuvre par les accompagnateurs à la VAE sans nécessité de passer par une logique de marché public, par exemple, qui, de fait, serait extrêmement excluante. Et on ne serait pas vraiment en raccord avec les objectifs de la réforme, qui est de multiplier. Notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à 100 000 parcours de VAE par an. À côté, on rétrécit le marché des architectes accompagnateurs de parcours, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. Donc le but est vraiment de capitaliser sur l'existant tout en permettant cette montée en compétences, cette professionnalisation. Nous, on pense que Calliope là-dessus est vraiment un bon vecteur, et on se laisse le temps de l'opérationnalisation de la réforme pour le faire. Et vous le savez certainement, pour les organismes de formation comme pour les CFA, il y a eu un délai qui a été accordé avant que finalement Calliope ne crée des conséquences sur l'accessibilité ou non au fonds public. On aura la même approche évidemment en la matière. Le coup près ne tombera pas du jour au lendemain et on aura une période de transition évidemment là-dessus.
Un grand merci pour toutes ces explications très très claires et complémentaires, chacun avec sa présentation. Un tout petit mot de conclusion sous trois points. Le premier, le MEDEF, vous pouvez compter sur nous pour faire entrer la VAE dans les entreprises. Si j'ai bien compris votre message, le MEDEF et ses adhérents y contribueront. Vous pouvez compter sur nous, au même titre que nous avons fait entrer, je crois, le CPF dans les entreprises grâce aux différents webinaires que nous avons organisés, et tous autour de la table y ont contribué. Deuxièmement, le MEDEF en tant que partenaires sociaux, oui aussi, vous pouvez compter sur nous pour notre mobilisation à suivre cette réforme dans une place dans la gouvernance qui reste peut-être à définir, mais en tout cas, on saura être à vos côtés pour tirer collectivement les enseignements de cette réforme. Et puis, rendez-vous le 1er juillet pour le lancement de la plateforme. Nous serons là, on sera connectés, on ira regarder ce qui se passe, et peut-être que individuellement, on aura une démarche VAE à engager, pourquoi pas. Un grand merci et au plaisir de vous accueillir une prochaine fois dans nos locaux pour une suite de cet événement sur la VAE. À très bientôt. Merci beaucoup.
Merci. C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.